Une soirée étudiante, un couloir d'école ou un événement d'intégration, aujourd'hui la fête et les études ne peuvent plus ignorer une question cruciale, celle du consentement. Bienvenue dans cette toute première émission. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet majeur de la vie de campus, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Des campagnes d'affichage au protocole de soirée, comment les écoles s'emparent-elles concrètement de ces enjeux? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Cette première, nous allons parler d'un sujet important dans la vie étudiante, la prévention des violences sexistes et sexuelles dans les établissements scolaires et lors des événements étudiants. Affichage de prévention, intervention, notion de consentement ou encore organisation des soirées étudiantes, comment ces questions sont-elles abordées aujourd'hui dans les écoles? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Isabelle Proust, responsable bien-être étudiant à Télécom Saint-Etienne. Bonjour Isabelle, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour Isabelle, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle en tant que responsable de l'écoute VSS dans l'établissement?
Alors, j'ai la mission donc bien-être étudiant qui concerne plusieurs éléments. Il y a ce qui concerne les personnes qui sont en situation de handicap, ce qui concerne pas votre thématique du jour, et ce qui concerne le bien-être étudiant, tout ce qui peut arriver aux étudiants s'ils sont en mal-être, l'opposé du bien-être, si ils ont des soucis. Et en fait, mon rôle n'est pas de me substituer à un médecin et de m'occuper d'eux, mais de plutôt les aiguiller vers des personnes, des professionnels compétents. Voilà. Et puis de faire un petit peu de recenser ce qui peut être fait et de faire des actions dans ce sens.
En quoi consiste vraiment du coup votre travail? Vous disiez du coup de rediriger, mais est-ce que vous avez un travail aussi peut-être de contacter des gens du coup pour intervenir? Quelles sont vos missions dans cette démarche?
Alors quand je reçois ou si d'autres personnes reçoivent quelqu'un qui a un mal-être, qui est plus ou moins passager. Donc, avec son accord, avec l'accord de la personne et uniquement après, avec l'accord de la personne, on peut contacter le service de santé universitaire pour leur demander une prise en charge rapide pour intervenir. Et on a aussi des contacts avec des organismes de suivi psychologique qui peuvent se déplacer. Mais c'est avec le consentement. Okay. Sans consentement, on n'a pas le droit.
Pour la plupart du temps, dans quelle situation les étudiants ils viennent vous voir et vous contacter?
Alors, ils peuvent exprimer souvent une situation de stress liée à des résultats, des études, à une nouvelle vie dans la ville, et donc être un petit peu perdu dans l'organisation. Et j'irai pas plus dans les détails par respect pour la confidentialité. En fonction, on peut discuter d'organisation de travail, on peut rediriger vers des collègues et puis vers le service de santé universitaire. Et s'il y a des aspects qui peuvent être liés à des violences, à s'être fait embêter, etc. Donc là, on aiguille vers des organismes spécialisés. Donc vous avez pu voir que à deux endroits dans l'école, il y a un grand panneau d'affichage dans le foyer étudiant et dans la salle derrière le foyer étudiant qui est un peu plus en retrait. Deux grands panneaux dans lesquels sont affichés des coordonnées de nombreux organismes sur différents thèmes en lien avec la discrimination.
Vous parliez de consentement, du coup, pour prendre contact après avec des personnes. Imaginons donc dans l'idée que ces personnes-là veuillent pas forcément passer le cap. Vous les accompagnez. Comment vous pouvez les accompagner pour les aider? Bah, est-ce que vous essayez de les convaincre? Est-ce que
première étape, essayer de les convaincre. Mais si vraiment ils veulent pas les consulter, on ne peut pas les obliger.
Du coup, vous servez plus d'écoute.
Ils sont invités à parler en confidentialité, mais ça peut être frustrant, c'est embêtant, mais s'ils ne veulent pas, on n'a pas le droit de les obliger, et puis on ne peut pas obliger quelqu'un à parler s'il ne souhaite pas parler. selon les situations, selon les vécus, il y a des choses qui sont, on sait très bien, qu'il y a des choses qui sont difficiles à dire. Il y a des personnes qui peuvent se sentir coupables, ou qui peuvent avoir des retours que renvoie la société et les habitudes qui sont en place depuis des siècles, qui fait qu'ils n'osent pas, ils n'osent pas parler parce que il peut y avoir un sentiment de culpabilité. Et bah, c'est d'essayer, on parle d'essayer de parler de façon générale pour essayer, enfin, pour les inviter à aller voir les personnes ressources, les convaincre que bah il y a toujours des personnes pour les aider, que c'est peut-être pas miraculeux, mais que il y a des personnes pour les aider, pour les écouter, pour les aider.
Au-delà de votre rôle d'écoute et d'accompagnant des étudiants, est-ce que vous jouez aussi un rôle, par exemple, de en ce qui concerne la prévention ou la sensibilisation?
Alors la prévention, oui, parce que à l'école, on a mis un module qui se fait à distance, qui là est vraiment dédié au VSS, qui se fait à distance et donc qui est en place depuis le début de l'année universitaire actuelle, et où tous les élèves de l'école ont été invités à suivre ce module. Donc, ben vous avez peut-être pu le suivre, qui est fait avec des petits éléments qui touchent un aspect juridique, qui touchent un aspect social, sociétal, et les aspects aussi de culpabilisation et des idées pour faire prendre conscience qu'il faut certainement déconstruire beaucoup de stéréotypes. Il y a notamment ça, donc ça c'est la prévention pour tout le monde. Et puis en fonction des formations, en fonction des filières, dans des modules de cours, il y a aussi des sensibilisations de façon différente. Donc en infocom, il y en a en fonction de vos cours. Ça peut être en bachelor ou en master. Et dans la filière ingénieur, il y a aussi des sensibilisations.
Et donc c'est vous qui vous occupez de tout ce qui est les affiches, etc.
Alors je m'occupe des affiches.
Les affichages.
Oui, les affichages, c'est moi qui m'en suis occupée. J'ai celles qui sont affichées, mais je les ai trouvées. Les contenus des modules, c'est pas moi qui les fais, mais.
Non, mais tout ce qui est information.
Oui, ça. Oui, voilà. Ouais. Avec l'aide d'associations que je peux connaître.
À travers ces actions-là, quel est le message ou quels sont les messages principaux que vous essayez de véhiculer?
La tolérance, le respect du consentement, être capable de pouvoir trouver ses limites, de comprendre les limites. Non, c'est non. Pas de réponse, c'est pas oui ou c'est pas non. Oui.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de consentement. Enfin, il est beaucoup évoqué. Et comment vous l'abordez, vous, avec les étudiants, justement, ce sujet-là?
Alors, j'aborde pas avec forcément tous les étudiants, parce que je fais pas un cours là-dessus. En début d'année, je rappelle la définition du consentement. Quand je fais les présentations à tout le monde, j'essaie de rappeler la définition du consentement. Quand je reçois des élèves et quand on discute, je rappelle cette définition de consentement, je le rappelle pour prendre contact avec les organismes, eux, et selon ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils veulent bien partager, eh ben on en reparle à ce moment-là. Voilà, sensibiliser en fonction peut-être...
C'est quelque chose qui est abordé une fois et après, si les personnes souhaitent en parler, elles se tournent vers vous. Il y a un gros enjeu... notamment du coup dans la vie universitaire, etc., c'est les soirées, notamment organisées par les BDE qui font partie de la vie étudiante. Est-ce que vous travaillez aussi du coup avec les associations, les associations étudiantes pour prévenir de ces comportements lors des événements?
Oui, on a travaillé avec eux et ils ont été invités depuis quelques années à signer une charte qui s'appelle « C'est pas une option ». Qui a été faite par groupement la CDFIL, groupement des écoles d'ingénieurs, et cette charte est tripartite en fait, hein. C'est la CDFIL, c'est l'école et c'est aussi les associations étudiantes, et dans cette charte il y a des indications de ce qu'il faut faire enfin de bonnes pratiques, ce qu'il faut faire, c'est pas l'expression de bonnes pratiques. Donc ils ont ce document et ça c'est quelque chose qui se renouvelle tous les ans puisque les associations étudiantes se renouvellent tous les ans. Et donc il y a une invitation à indiquer dans les statuts ce qu'on fait en cas de, et on avait discuté et là ils ont dû mettre en place dans toutes leurs pratiques, alors il y a des tas de pratiques qui se font, hein, qui nous ont indiqué, ils devaient mettre, en fait là, une procédure. Je les avais invités à mettre une procédure en place pour que tout le monde ait l'information. Bah, il se passe un événement, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que quand ça arrive à chaud, c'est pas forcément évident, donc il faut avoir une procédure. Donc ça, ils le font, et puis depuis quelques années, ils suivent des formations. Et donc le souhait, c'est que tous les membres, tout étudiant et étudiante qui souhaite être dans une ISP ait une formation dispensée par un organisme. Voilà, donc il y a une sensibilisation de toutes les personnes sur les listes.
C'est une obligation pour les BDE, du coup, de mettre en place ces pratiques, ou c'est une recommandation ?
Ils ont signé un engagement.
Oui, mais ils sont obligés de signer, du coup, cette...
On les a fortement invités, okay. Oui. Ouais.
Okay.
On les a fortement invités. Oui. Après, c'est un engagement.
Oui.
Voilà. Je n'ai pas demandé à voir les statuts. Ils m'ont indiqué que c'était dans leurs statuts. Je leur fais confiance. Ils font les formations. Alors souvent, ça, on est au courant parce que il y a un aspect simple de paiement et l'école en général paie les formations. Donc à ce moment-là, on est au courant. Voilà, sur le retour. Ils vont aux formations. Et au début, il y avait un peu plus d'accompagnement. J'étais un peu plus présente parce que c'était le début. Et puis après, ils auraient très bien à le faire. Il y a un organisme de formation qui vienne. Les personnes sont présentes. Et puis, je pense que ça se passe bien, en tout cas. Voilà. Et je pense que tout le monde est convaincu maintenant qu'il faut le faire.
Toutes ces pratiques, elles ont été mises en place pour que les soirées étudiantes restent des moments festifs et... où on se sent en sécurité.
Bah oui.
Et si oui, est-ce qu'il y aurait d'autres bonnes pratiques comme celle-ci?
Les soirées étudiantes, ça c'est un gros morceau, mais c'est le morceau pas forcément simple parce que en fait c'est à l'extérieur. Ça se passe à l'extérieur de notre école parce que nous ne sommes pas une école comme certaines qui ont un super campus et où tout se fait dedans, y compris un bâtiment. C'est pas comme ça. C'est à l'extérieur, mais en fait, légalement, depuis quelques années, tout ce qui implique des élèves de l'école, s'il y a un problème de violence, ou ça implique des élèves de l'école, ça concerne l'école, en fait. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que ça a été fait. Après, dans l'école, il y a ces notions aussi de tolérance qu'on essaie de... Enfin, que j'essaie de faire passer ce que je voulais dire un petit peu tout à l'heure, cette tolérance, tolérance à la différence, au consentement, même dans un cours, dans un projet, les personnes entre elles, et ça c'est plus vague, c'est plus difficile, c'est plus diffus.
Est-ce que vous avez observé des évolutions dans la manière dont les étudiants appréhendent ce sujet depuis que vous travaillez à ce poste à Télécom ? Des changements de mentalité, des évolutions mentales ?
Même au cours de votre parcours en règle générale, est-ce que vous avez vu des évolutions ?
Alors, si on remonte sur mon parcours, oui, et heureusement. Oui, heureusement, il y a eu des évolutions, effectivement. Ça c'est certain depuis que je suis à l'école. À l'école, tout ce qui concerne l'intégration, il y a eu des évolutions dans le bon sens parce qu'il y avait des choses qui se sont pratiquées et qui ne sont plus acceptables maintenant et auxquelles nous avions participé nous-mêmes et on a déconstruit, on a changé, voilà. Après, depuis que je suis responsable, c'est quand même à une courte échelle. On est un petit reflet d'une société et il y a des évolutions, mais mon avis à moi, jugement, c'est qu'il y a encore des choses à faire, on n'a pas fini et qu'il y a encore des réticences.
La parole se libère un petit peu, mais finalement,
oui, voilà.
Certaines mentalités, pas trop aussi.
Il y a des stéréotypes qui restent encore.
Oui.
Des stéréotypes qui ne sont pas reconnus comme des stéréotypes. J'ai entendu récemment, encore des VSS. Oui, bon, ça va, on sait, quoi. Bon, je sais pas ce qu'il faut mettre derrière ça, mais
ils le prennent comme une contrainte.
Oui, c'est peut-être une contrainte. Et puis on sait. Alors qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Bon, d'un point de vue législatif, ça peut être effectivement vu comme une contrainte parce que c'est un peu rébarbatif et ça ne suffit pas. Je pense que le côté législatif, il faut le connaître, c'est indispensable. Je pense que ce qu'il faut réaliser, c'est toutes les petites blagues qui ne sont pas forcément vécues comme des blagues. Et le « oh, mais c'est pas grave », c'est la personne qui reçoit qui est la mieux placée pour juger si c'est grave ou si c'est pas grave. Je dis souvent, on ne connaît pas le passé de toutes les personnes qui arrivent ici. On ne sait pas ce qu'elles ont vécu. On ne connaît pas leur sensibilité. Donc, on peut pas juger de ce qui va les blesser, ce qui ne va pas les blesser, ce qui va faire écho à un vécu désagréable. Voilà. Ben non, je crois qu'on n'a pas fini. Je crois qu'on peut en discuter et puis être d'avis différents et que certains trouvent que oh, mais ça c'est exagéré. Oui, mais en quoi c'est exagéré? Pourquoi? Et je pense que c'est en discutant. Je pense que c'est en discutant que l'on peut faire évoluer, que l'on peut se comprendre et en étant tolérant de ce que l'on peut en réceptionner, quoi.
Côté du coup des établissements ou des associations, vous avez dû remarquer également des évolutions, non?
Bah des établissements, oui, forcément, parce que on est passé une loi en 2022 qui oblige les établissements à faire quelque chose. Et effectivement, et au niveau des pratiques, oui, il y a quand même eu des prises de des prises de conscience, au-delà d'une obligation pour répondre à une loi, des prises de conscience qu'il y avait certaines pratiques qui n'étaient plus d'actualité, qui étaient dépassées. Voilà, et pourquoi on ne peut plus les tolérer, en fait. Et je crois que tous les établissements, enfin les établissements d'enseignement supérieur sont obligés, et tous les établissements le font. Il y a certains... Alors, on connaît un établissement dans l'enseignement supérieur que je pense que vous connaissez tous, qui est assez réfractaire à ce genre de pratique. C'est une école d'ingénieurs.
On parle des établissements. Qu'est-ce qui pourrait encore évoluer pour vous?
Eh bien, quand on aborde ces thèmes, je crois que déjà, il y a une étape. Quand on va aborder ces thèmes-là, l'étape, ce serait que tout le monde soit à l'aise pour en parler. Et qu'il y ait une partie de la population qui soit mal à l'aise. Alors, mal à l'aise parce que c'est gênant. Parce que c'est un peu intime, qu'on n'a pas l'habitude, peut-être parce qu'on n'a pas la culture, peut-être parce que pour différentes raisons. Et puis qu'on soit à l'aise pour dire oui, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord, parce que et qu'on puisse évoluer et peut-être comprendre que on a soit des niveaux de tolérance, on a des visions. Bah, qui sont peut-être pas celles d'une autre personne et que peut-être on peut s'adapter et qu'avec un vocabulaire différent, bah, ça suffit finalement. Ça, c'est la première étape. On va en parler librement et puis après, c'est peut-être plus trop la peine d'en parler puisque c'est OK. Mais là, je pense qu'il y en a encore pour quelques années quand même.
Pour finir, du coup, qu'est-ce qui vous a mené à vouloir prendre ce rôle au sein de Télécom et quel message aimeriez-vous faire passer aux étudiants qui nous écoutent aujourd'hui?
Je suis responsable d'une année de formation du cycle ingénieur depuis pas mal d'années maintenant. Et il y a eu des événements au niveau de l'école qui ont fait qu'on a beaucoup collaboré avec le service de santé universitaire. Et donc, la responsable du service de santé universitaire qui est partie à la retraite maintenant lors de d'un rendez-vous à un moment donné, de ma carrière où on discutait un petit peu en aparté où je lui faisais passer le message que ma sensibilité pour tout ce qui était social était quand même assez importante et qu'il y avait des choses que j'aimerais bien qui évoluent. Donc la première chose qu'elle m'a proposée, c'était d'être référente handicap. Nous sommes une composante de l'université Jean Monnet. Il n'y a rien au niveau de l'école d'ingénieur, il n'y a pas de service de santé, c'est au niveau de l'université. Et il y a la gestion du handicap, des personnes en situation de handicap. Et ils ont souhaité mettre en place un référent ou une référente administrative et enseignante, parce qu'il y a un aspect pédagogique, côté enseignant, par composante pour faire le relais. Et elle m'a proposé ce rôle. Donc j'ai accepté. l'école ici, son directeur a accepté. Et du coup, à partir de ça et de tout ce qui est arrivé sur les discriminations au sens large. Voilà, je préfère le mot discrimination au sens large que VSS parce que moi je mets les VSS dans une certaine forme de discrimination. C'est pas, il y a pas d'hierarchie. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être bien de faire quelque chose un peu au sens élargi. Ça a été une discussion avec la direction et c'est comme ça qu'on m'a confié d'élargir la mission.
Et du coup, quel message vous aimeriez passer aux étudiants ?
Qu'on est là pour les écouter, pour les accompagner, pas pour les juger, et qu'on peut mettre en place. On est sur une piste, j'ai repris une piste de réflexion d'une cellule d'écoute qu'on va essayer de construire et que en fait on n'est pas on n'est pas là pour les juger, pour ne pas les aider. On demande de pas nécessairement de connaître leur vie et ce qui s'est passé, des détails qui peuvent croire à notre discrétion. Et qu'on va essayer de faire de notre mieux pour les envoyer vers des personnes, des professionnels qui peuvent s'occuper d'eux et les aider, les accompagner.
Et ben merci beaucoup.
Très bien, on remercie.
Merci.
C'est à vous.